Bonjour, au micro Idrissa Seloudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Nous commençons par le coronavirus. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, malade du Covid-19, a été placé lundi en soins intensifs, ont annoncé ses services dans un communiqué. Et il a demandé au ministre des Affaires étrangères Dominique Raab d'assurer l'intérim en cas de besoin. Le Royaume-Uni est l'un des pays les plus touchés en Europe avec plus de 50 000 personnes testées positives et 5 373 décès. M. Johnson est le seul chef d'État ou de gouvernement d'une grande puissance à avoir été contaminé par le nouveau coronavirus qui a fait plus de 73 000 morts dans le monde. Le bilan de la pandémie est reparti à la hausse dans certains pays européens, l'Italie et la France, et a franchi la barre des 10 000 morts ici aux États-Unis. La justice sénégalaise a autorisé lundi l'ex-président tchadien Hissène Habré à quitter pendant 60 jours la prison de Dakar où il est détenu pour crimes contre l'humanité, car elle doit abriter la quarantaine de prévenus dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. À l'issue de ce congé qu'il devra passer dans sa résidence de Dakar, Hissène Habré, condamné le 30 mai 2016 à la prison à vie, réintégrera l'établissement pénitentiaire du Cap Manuel immédiatement, indique une ordonnance d'un juge dont l'AFP a obtenu une copie lundi soir. En Guinée, le président Alpha Condé a promulgué la nouvelle constitution soumise à référendum fin mars et qui ne serait, selon l'opposition, qu'un stratagème pour se maintenir au pouvoir. Après des mois de tensions qui ont fait des dizaines de morts, M. Condé a promulgué le texte par décret lu à la télévision nationale le même jour qu'il approuvait un plan de riposte économique au Covid-19 doté de plus de 3 000 milliards de francs guinéens, soit 292 millions d'euros, censé minimiser les effets de la pandémie sur l'économie nationale et les ménages les plus défavorisés. La Guinée a déclaré officiellement 128 cas de contamination. Au Mali, 25 soldats maliens ont été tués et 6 autres blessés lundi par des djihadistes présumés dans la région septentrionale de Gao. Et selon le gouvernement, une dizaine d'assaillants ont également été neutralisés dans cette attaque qualifié de terroriste. Bamako dit par ailleurs avoir neutralisé plusieurs terroristes et récupéré une quantité importante de matériel lors d'une opération dimanche dans la région centrale de Mopti. L'attaque de lundi contre un poste militaire de Bamba est la dernière en date des opérations imputées aux djihadistes contre l'armée malienne ces derniers mois, dans un contexte de forte dégradation sécuritaire. Elles ont fait des centaines de morts. Il n'y a plus un seul élément de Boko Haram sur le territoire tchadien, a affirmé à l'AFP le porte-parole du gouvernement tchadien lundi, confirmant le message du président Idriss Déby Itno, moins de 2 semaines après le lancement d'une offensive contre le groupe djihadiste nigérian. Sur l'ensemble de la zone insulaire, il n'y a pas un seul djihadiste, avait affirmé ce week-end le président Déby depuis la province du Lac où il s'est rendu mi-mars pour diriger une riposte après une attaque de Boko Haram sur la presqu'île de Bohoma. Une centaine de militaires tchadiens avaient alors été tués. Et au Cameroun, 8 civils camerounais ont été tués dimanche soir dans un double attentat suicide perpétré par des terroristes à Amchidé dans l'extrême nord, a annoncé lundi le ministre de la Défense, une attaque attribuée par plusieurs sources à Boko Haram. Les deux kamikazes étaient 2 jeunes garçons qui portaient des charges explosives. Selon le ministre Joseph Betty Assomo, l'attaque a fait 10 morts, dont les 2 assaillants, et 14 blessés, dont 10 graves. Selon Amnesty International, au moins 275 personnes, dont une majorité de civils, ont été tués en 2019 dans l'extrême nord du Cameroun. VOA Afrique, Washington, D.C.
la suite de nos informations, la République démocratique du Congo a commencé hier matin le confinement du centre d'affaires de Kinshasa, la capitale, considérée comme l'épicentre de la pandémie de coronavirus, Eddie Sango.
Pendant ces confinements jusqu'au 20 avril, les autorités sanitaires envisagent la désinfection massive de la commune de Gombe, siège du gouvernement, de plusieurs banques, entreprises et des ambassades. Dès lundi matin, l'armée, la police et les personnels de santé ont installé des checkpoints pour isoler Gombe du reste des communes de la ville. La Gombe regroupe près de 200 000 personnes sur les 12 à 14 millions d'habitants de Kinshasa. À partir du 10 mars, les premiers cas confirmés y ont été enregistrés, souvent parmi des Congolais des retours de l'étranger et dans l'entourage même du chef de l'État Félix Tshisekedi. Des cas ont aussi été enregistrés à Goma, Beni et Bukavu, des villes également isolées dans l'est du pays. Jusqu'à lundi soir, les pays comptabilisaient 161 cas confirmés, dont 7 nouveaux cas en 24 heures à Kinshasa, 18 décès et 5 personnes guéries.
Le patron de l'OMS a condamné lundi les propos racistes de chercheurs qui ont récemment évoqué l'Afrique comme un terrain d'essai pour tester un vaccin potentiel contre le Covid-19. De tels propos ont suscité un tollé en Afrique et dans la diaspora. Le point avec Ekia Badou.
Ce genre de propos racistes ne font rien avancer, affirmé Tedros Adhanom Ghebreyesus, patron de l'OMS. Il est honteux et horrifiant d'entendre des scientifiques tenir ce genre de propos au XXIe siècle. Nous les condamnons dans les termes les plus forts, a conclu M. Tedros. En France, le 1er avril, le professeur Camille Locht, directeur de recherche à l'INSERM, était interrogé sur des recherches autour du vaccin BCG contre le Covid-19. Invité en plateau, le professeur Jean-Paul Mira de l'hôpital Cochin de Paris lui demande est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation. Ce à quoi a répondu favorablement le professeur Locht. Depuis, ils ont été condamnés par plusieurs associations antiracistes et le ministère français des Affaires étrangères. Les footballeurs ivoiriens Didier Drogba, le Camerounais Samuel Eto'o et l'économiste togolais Kako Nubumpo ont tous dénoncé des propos racistes et avilissants. Face à cette tempête, les deux chercheurs ont depuis présenté leurs excuses.
Les États-Unis ont franchi lundi la barre des 10 000 morts recensés du nouveau coronavirus, selon l'université Johns Hopkins. Il y a plus de 347 000 cas officiellement déclarés. Eric Manirakidza.
La première puissance mondiale est le troisième pays le plus endeuillé après l'Italie et l'Espagne. Les États-Unis n'ont pas encore atteint le pic de la crise et se préparent à vivre un moment comme Pearl Harbor ou les attentats du 11 septembre 2001. Le pays relève depuis le milieu de la semaine dernière plus de 1000 nouveaux décès quotidiens malgré les mesures de confinement qui ont été progressivement mises en place état par état. L'État de New York constitue le principal foyer de l'épidémie américaine avec plus de 4750 morts et 130 000 cas dont plus de la moitié dans la seule ville de New York. Les autorités ont prévenu qu'entre 100 000 et 240 000 personnes au total pourraient mourir du Covid-19 aux États-Unis, selon les modèles et le respect des consignes de distanciation sociale. Le gouverneur démocrate du Wisconsin a ordonné hier le report des primaires démocrates prévues ce mardi jusqu'au 9 juin.
La Minute Éco, Eki Abadou.
Le président du Malawi, Peter Mutharika, a annoncé avoir réduit de 10% son salaire pour aider à faire face au coronavirus. Il a aussi ordonné au Trésor public d'en faire de même pour ses ministres et vice-ministres pendant 3 mois. Le Malawi a enregistré jusqu'à présent 4 cas confirmés. Le président malawite affirme que le gouvernement prendra des mesures pour protéger les emplois et les entreprises pour garantir la continuité de la chaîne d'approvisionnement et la survie de l'économie. Toujours dans la lutte contre l'épidémie du coronavirus, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a annoncé un effort de l'ordre de 250 milliards de francs CFA pour aider les particuliers et les entreprises qui bénéficieront de remises d'impôts et d'un guichet de financement. Les personnes aux faibles revenus recevront une partie de leur salaire et un gel des loyers. Le Nigeria et l'Angola, deux grands producteurs de pétrole, pourraient Le Nigeria et l'Angola, deux grands producteurs de pétrole, pourraient à eux seuls perdre 65 milliards de dollars de revenus. Les déficits budgétaires devraient doubler cette année et leurs économies se contracter en moyenne de 3%. Les destinations touristiques africaines vont également souffrir. L'Afrique a été ces dernières années parmi les régions qui ont enregistré la croissance la plus rapide au monde. Mais avec les frontières fermées et les compagnies aériennes clouées au sol, le secteur est presque entièrement à l'arrêt.
Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Après consultation avec le ministre de la Santé publique, Tadeusz Ndikumana, l'Assemblée générale a décidé que les championnats de première et deuxième division devraient continuer à être joués tout en observant les mesures d'hygiène appropriées. Ainsi en a décidé la Fédération burundaise de football dans un communiqué après une réunion de ses clubs. Après trois cas confirmés d'infection au Covid-19, le Burundi est l'un des rares pays où le championnat se poursuit malgré la propagation du coronavirus, tout comme la Biélorussie, le Nicaragua et le Tadjikistan. En Europe, le Bayern Munich, leader du championnat d'Allemagne, a repris l'entraînement hier pour la première fois depuis la suspension de la Bundesliga le 3 mars à cause du coronavirus. Cette reprise s'est faite par groupe de 5 et en respectant des mesures de distanciation à 1,5 mètre au moins les uns des autres. Pour limiter les risques de transmission, le Bayern a prévu des arrivées en ordre dispersé, une interdiction des poignées de main et une répartition de l'effectif en 5 groupes de 5 joueurs maximum. Comme le club bavarois, le Borussia Dortmund a repris avec au programme course et exercice de frappe. Les deux seuls clubs d'Allemagne à ne pas avoir programmé de séance collective cette semaine sont Fribourg et le Werder Bremen, où le conseil municipal interdit toujours l'entraînement en groupe. Pendant ce temps en Angleterre, le sélectionneur de l'équipe nationale Gareth Southgate a accepté une baisse de 30% de son salaire en raison de la crise financière liée au coronavirus. La fédération anglaise a détaillé un plan de réduction des salaires progressifs. Les gens gagnant plus de 57 000 euros par an verront leurs revenus amputés de 7,5%. Les salariés de la direction de la fédération perdront 15% et les mieux rétribués jusqu'à 30%. Le salaire de Southgate est estimé à 3,42 millions d'euros par an et son effort financier devrait permettre d'économiser 256 000 euros s'il dure 3 mois. La fédération anglaise estime à 171 millions d'euros ses pertes liées au coronavirus. En basketball, ici aux États-Unis, Evan Fournier ne croit plus à la reprise du championnat NBA suspendu le 11 mars à cause du coronavirus. « J'y crois de moins en moins à la reprise de la saison », a déclaré l'arrière français d'Orlando sur son compte Twitter. Fournier parle par contre de l'un des scénarios évoqués régulièrement pour la reprise de la saison NBA, à savoir un championnat resserré avec le début immédiat des playoffs. Au moment de la suspension du championnat, Orlando était 8e de la conférence Est et était donc virtuellement qualifié pour les playoffs.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel. Le monde au féminin. Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique. Le monde au féminin.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedibia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le génocide sont commémorés en avril. Les massacres de 1994 au Rwanda et le génocide arménien d'il y a un siècle. Des chercheurs viennent de publier des témoignages audio de ces atrocités au Rwanda. Reportage de Mike O'Sullivan, repris ici par Abdourahman Dia.
Les survivants du génocide des Tutsis au Rwanda se réconfortent toujours entre eux des décennies après cette tragédie qui a fait près de 800 000 morts. Au milieu d'une guerre civile, des extrémistes de l'ethnie Hutu majoritaire se sont retournés contre des Tutsis, la minorité ethnique, et des Hutu modérés. L'avion transportant le président rwandais Juvenal Habyarimana, un Hutu, a été abattu. Il y a d'abord eu des meurtres ciblés, puis des massacres généralisés. Le 7 avril 1994, les milices Interahamwe ont commencé leur sale besogne et à grande échelle. Ces chercheurs californiens qui ont réalisé 260 entretiens avec des survivants ont écrit un nouveau livre sur les massacres. Donald Miller, de University of Southern California.
Survivors told us that in...
Les survivants nous ont dit que dans certains cas, ils étaient en fait les parents et les marraines des enfants de leurs bourreaux et ils ne pouvaient pas croire que ces amis, sous les ordres du gouvernement, se retourneraient contre eux pour les tuer.
Les chercheurs californiens ont aussi publié avant un livre témoignage sur les survivants du génocide arménien. 1,5 million d'Arméniens sont morts suite à la persécution de l'Empire turc ottoman. Lorna Miller, chercheuse.
Mes deux parents ont survécu le génocide arménien. Mon père était le seul survivant d'une famille de 9 personnes et ma mère, la moitié de sa famille, a survécu.
Et l'histoire s'est répétée, mais cette fois au Rwanda. Sauf que là, les bourreaux et leurs victimes étaient tous chrétiens. Le massacre était plutôt sur des bases ethniques. Des prêtres hutus sont même accusés d'avoir aidé leurs tueurs. Ces universitaires disent que pour ces victimes, raconter leur histoire eux-mêmes est la première étape vers le pardon. Lorna Miller, chercheuse.
C'était extrêmement important. Tous ceux qui ont vécu un génocide ont donné ce conseil.
Les séquelles du génocide sont toujours là. Des groupes communautaires offrent un soutien aux survivants, mais la douleur est persistante. Donna Miller de l'University of Southern California.
Cela continue sur le plan économique. Aussi, le traumatisme est toujours présent.
Et quel que soit le pays, les signes avant-coureurs étaient visibles. Lorna Miller.
Accuser un groupe, trouver le bouc émissaire, c'est à cause des Tutsis, c'est à cause des Arméniens qui avancent trop vite. C'est donc toujours un signe de danger lorsque nous pointons du doigt un groupe.
Comme chaque année, le Rwanda se souvient, mais cette fois, les cérémonies de commémoration seront plutôt sobres à cause du coronavirus.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
Au Cameroun, plus de 7,2 millions d'élèves et étudiants sont affectés directement par la fermeture des établissements scolaires et universitaires en raison de la crise du Covid-19. Confinés à la maison depuis le 18 mars, ils multiplient les initiatives pour poursuivre leurs études. Pour leur part, les universités privées subissent financièrement l'impact du nouveau coronavirus. De Yaoundé, correspondance d'Emmanuel Jultap.
Nous avons mis sur pied un forum qui regroupe 30 élèves et 8 enseignants.
Plus de 3 semaines après la fermeture des établissements scolaires en raison du Covid-19, Brenda, élève en classe de terminale dans un collège privé de Yaoundé, s'est arrimée malgré elle à l'enseignement à distance via l'application WhatsApp.
Nous avons 2 matières par jour, le matin de 4 à 6 heures et le soir de 18 à 20 heures. Nous faisons des corrections des épreuves et des sujets. Ça essaye souvent parfois de laisser des devoirs et après on corrige ensemble. C'est pas si facile parce que c'est coûteux et il faut tout le temps avoir des mégas, mais nous faisons avec, c'est pour notre santé.
Ce suivi scolaire à distance n'est pas cependant gratuit. Chaque élève du forum va débourser 10 000 francs CFA au bout d'un mois. Des moyens financiers que Marie-Jeanne dit ne pas avoir. Élève en classe de terminale au lycée d'Anguissa à Yaoundé, elle sollicite l'aide de ses camarades de classe en cas de besoin.
Je peux demander à mes amis, dans nos groupes WhatsApp, un ami qui comprend mieux la leçon, je lui demande de m'expliquer.
Dans l'enseignement supérieur privé, la poursuite des programmes de formation académique préoccupe également, comme à l'Institut Saint-Louis, spécialisé dans la formation au métier de la santé. Initialement basé à Bamenda, l'Institut a délocalisé à Douala à cause de la crise anglophone. Le COVID-19 est un coup dur pour le promoteur Nick Nguyam.
Nous n'avons pas de subvention de l'État et les étudiants, ils payent des frais de scolarité et puis c'est avec ces frais de scolarité que nous faisons fonctionner l'école. Et quand les activités économiques sont à terre, alors bien sûr, les étudiants ne peuvent pas payer les frais de scolarité. Alors, bien sûr, l'école ne peut pas avoir d'argent. Nous ne sommes même pas préparés au cours en ligne parce que nous avons des problèmes de bande passante. La connexion Internet n'est pas très stable, pas aussi bonne. Et puis, vous savez, c'est cher. Les enfants n'ont pas assez d'argent pour payer la nourriture. Alors, quand on leur demande de payer la bande passante, cela ressemble à une insulte.
La pandémie du nouveau coronavirus a révélé au grand jour le fossé numérique au Cameroun.
Nous remarquons d'ailleurs avec cette épidémie que les domaines prioritaires à arrimer au TSC sont les professionnels de l'éducation et de la santé.
Armand-Claude Abanda, directeur de l'Institut africain d'informatique, dont le siège est à Yaoundé.
Seulement 20 à 25% des enseignants au Cameroun disposent d'un accès à Internet. La plupart ne possèdent pas de compétences en TSC. Nous devons donc aider les enseignants à s'adapter à ce nouveau cadre d'apprentissage.
Afin de couvrir le dernier tiers du programme scolaire, la radio et la télévision d'État ont entamé dès ce lundi la diffusion des cours pour les élèves des classes d'examen du cycle primaire, mais également pour certains élèves du cycle secondaire. Auparavant, la ministre des enseignements secondaires a annoncé que le gouvernement allait expérimenter une plateforme d'enseignement à distance pour tous. Les enseignants qui ont des cours bien élaborés ont été invités à les déposer auprès du ministère. Mais à ce jour, la plateforme n'est pas encore fonctionnel. Yaoundé, Emmanuel Jouloutap, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Niger va perdre près de 3 points de croissance en 2020 en raison des perturbations des activités économiques du fait du COVID-19. L'inflation annuelle sera également considérable selon les autorités qui ont estimé les besoins financiers pour faire face à tout cela à environ 600 millions de francs CFA. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
L'hypothèse qui a servi de base pour faire les projections sur de nouveaux indicateurs macroéconomiques est celui-ci, la fin du mois de juin comme période de maîtrise ou de fin totale de la crise du COVID-19.
Les résultats que je vous présente sont actuellement en cours de mise à jour par mes services.
Mahamadou Diop, ministre de l'économie et des finances.
Le taux de croissance pour l'année 2020 passerait de 6,9% à 4,1%. Soit une perte de 2,8 points de pourcentage. La contraction de l'activité économique engendrerait une perte d'emploi d'environ 2,4%. La perturbation de l'approvisionnement en produits de consommation courante et les effets spéculatifs induits conduiraient à un taux d'inflation annuel compris entre 4,4% et 7,9%. Au niveau des finances publiques, il sera enregistré une baisse des recettes internes d'environ 89,2 milliards. Soit 1,1% du PIB. Il en résultera pour l'année 2020 une dégradation du déficit budgétaire global, prévu au départ à 2,6% et qui passerait à 3,7% du PIB.
Pour faire face à tout cela, un besoin financier de l'ordre de 600 millions de francs CFA est nécessaire. Cette crise économique due au COVID-19 se propage, selon le ministre de l'économie et des finances au Niger, par trois canaux principaux.
Premier canal, le commerce de biens, notamment les importations de produits de consommation courante. Deuxième canal, le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, des transports aériens et terrestres. Troisième canal, les flux financiers internationaux à travers les envois de fonds des travailleurs migrants, les investissements directs étrangers et l'aide publique au développement. Le canal suivant, c'est le secteur bancaire et financier, en raison des risques de ralentissement des activités, de liquidité et de bilan auxquels sont exposées les banques.
À la date du 5 avril, le Niger enregistre officiellement 184 cas confirmés de malades de Covid-19 avec 10 décès et 13 personnes qui ont été guéries. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
L'Algérie reste le pays d'Afrique du Nord le plus touché par le coronavirus avec environ 85 décès et 1000 cas déclarés vendredi. La crise met en lumière les dysfonctionnements de la santé publique dans ce pays, mais fait en même temps naître l'espoir. Toute une chaîne de solidarité s'est mise en place à l'image de cette usine de textile à Alger qui se concentre désormais sur la fabrication de masques de protection. Jacques Aristide nous en dit davantage.
Ça grouille d'activité ici dans cette usine du textile dans la capitale algérienne. Derrière des rangées de machines à coudre, des volontaires confectionnent des masques en tissu approuvés par les autorités sanitaires. L'objectif est de produire un minimum de 1600 masques par jour afin d'aider à pallier le manque criant de ce matériel médical en Algérie. Les volontaires, pour la plupart des femmes, sont d'avis qu'elles sont en train de remplir un devoir citoyen dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Noura, l'une des couturières.
Nous sommes venus ici pour répondre à l'appel de notre pays, pour aider au moins les médecins qui se plaignent de la rareté des masques. D'une certaine façon, j'aide à protéger les soldats, les policiers, les nettoyeurs. Nous espérons en produire davantage dans les prochains jours.
Le produit final est désinfecté à la fin de sa fabrication. Karima, une autre volontaire.
Ce sont des masques médicaux conformes aux normes requises. Nous utilisons deux tissus principaux que nous ajoutons à un filtre qui est étanche.
Qui est imperméable.
Puis nous les cousons ensemble. Ensuite, nous passons à la troisième étape où nous les plions. Puis nous les plaçons enfin dans la machine de désinfection.
Le gouvernement va dépenser 100 millions de dollars pour importer du matériel médical, dont 100 millions de masques de la Chine, outre une production locale de 90 000 masques par jour, avec le concours des volontaires. Soheila tient également à prendre part à l'élan de solidarité manifesté à travers le pays.
Je suis venue ici en tant que volontaire pour remplir mon devoir national et pour le bien de notre communauté. Tant qu'il y aura une pénurie de masques durant cette pandémie, nous serons là pour aider.
Le coronavirus continue à infecter plus de gens en Algérie et à faire davantage de victimes. Hormis la pénurie de masques, le pays est confronté à un manque d'autres produits de protection, dont le gel hydroalcoolique, mais les initiatives citoyennes se multiplient notamment pour venir en aide aux professionnels de la santé du pays.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Au micro, Idrissa Sedoudia en compagnie de Michel Joseph pour la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.